La pandémie a eu des impacts fascinants chez toutes sortes de gens, comme par exemple se développer une passion pour les plantes tout en découvrant qu'on est vraiment incompétent. Amy, en fin de semaine, ça a pas bien été, hein, ton sommeil?
Ah non, écoute, chez moi, là, c'est presque rendu une jungle. J'ai des plantes à n'en plus finir. J'étais fière, j'ai des plantes qui faisaient des feuilles. Et là, il y en a une qui a décidé qu'elle se laissait envahir par des insectes.
Ah oui?
Alors là, quand j'ai vu ça en fin de semaine, j'ai remarqué ça samedi en fin d'après-midi. Tu sais, je m'en allais préparer un repas avec un petit verre de vin.
Ben oui.
Là, ça a vraiment brisé ma soirée.
Oh non.
Fait que là, j'essayais de trouver des moyens pour ma plante. Et ça a tellement brisé ma soirée, ça a brisé ma fin de semaine.
Ben voyons,
je me suis réveillée
voyons.
Cette nuit à 2h du matin, je pensais à ma plante. Là, je me disais,
je peux-tu...
Tu sais, quand tu penses à des affaires que t'as juste aucun pouvoir...
Ben, c'est assez féminin, ça, je veux dire.
Ah ouais, hein?
Ouais. Je me disais... fait la même affaire avec une plante qu'elle a laissée dans le portique, là.
Ah ouais. OK.
C'est assez féminin, ouais.
Mais là, je me disais, il faut que je m'achète un insecticide. Les produits non essentiels, ça rentre-tu là-dedans?
Ah,
je vais-tu être bonne?
Question existentielle.
Là, je vais devoir mettre ma plante dans le bain, donner une douche. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est ça. C'était mon combat de la fin de semaine.
Mais là, Amy, le plus important quoi? Là-dedans, ça t'est arrivé samedi soir?
Samedi après-midi qu'elle dit. Avant qu'elle fasse son souper et son verre de vin.
Ça a quand même... ça m'a empêché de dormir la nuit
dernière.
Mais
là, ton verre de vin, tu l'as bu quand même, j'espère?
Ben oui.
Il a dû rentrer au poste, hein?
Pas mal.
Si on est tous debout en retard!
Vous écoutez le balado
On est tous debout
avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. Retrouvez-nous en direct en semaine dès 5h25 au 102.9 Rouge et à rougefm.ca.
C'est un quiz télévisé à la radio. On cherche des questions à mes réponses. On fait les affaires tout à l'envers. Parce qu'on est comme ça, c'est l'heure du quiz. Géopardy! On accueille nos deux participants ce soir et si elle était un végétal, elle serait un personnage parce que c'est la première à se réjouir de la fin de l'hiver, Émilie Gagné. Bonsoir!
Bonsoir!
Et s'il était un végétal, il serait un rosier sauvage car qui s'y frotte s'y pique? Martin Brassard, bonsoir!
Tout à fait vrai, Jay, merci.
Écoute, il me remercie, c'est extraordinaire. Alors... le pointage actuel est de Émilie 25, Martin 10. Ça va très bien pour Martin qui a le vent dans les pétales.
Je suis sur une lancée.
Ouais, mon Dieu. C'est la voix de Luc... voyons, c'est quoi son nom, lui? Luc Lavoie, c'est ça? Sorti sa voix de Luc Lavoie.
Non, t'as peu. Tu veux que je fasse Luc Lavoie?
Non, merci. Non, merci. Alors, Émilie, c'est toi qui as le luxe de choisir la catégorie du soir. Alors, les catégories sont... Petit bonhomme gris. Poil. T'as-tu faim et c'est dur, dur, dur!
Ben là, tu sais, je suis tellement prévisible. C'est sûr que je vais prendre les petits bonhommes gris.
Et ce n'est pas une question par rapport aux extraterrestres.
Ah non!
On est très déçus.
Vous croyez avoir la bonne question à ma réponse, vous dites votre prénom et ça vous donne le droit de parole. C'est une question pour 4 points.
Oh!
C'est un empilement de pierres construit par les peuples Inuit et Yupik dans les régions arctiques d'Amérique du Nord.
Je sais pas comment ça s'appelle, cette affaire-là.
Mais tu le vois, hein?
Ben oui, je sais c'est quoi.
Ça a été l'emblématique logo des Jeux olympiques de Vancouver en 2010.
Ben oui.
Ben, alors, je me rappelle pas du tout c'est
non,
quoi.
C'est
Martin.
Martin. Martin, vas-y.
Qu'est-ce qu'un menhir?
Amy, qu'est-ce qu'un totem?
Ce n'est pas la bonne réponse. Ce ne sont pas les bonnes questions.
Bon. On a essayé, tu sais.
Écoute, on est allé dans Astérix, puis dans 2001, Odyssée de l'espace. On est allé partout et on n'a pas eu la bonne réponse.
C'est quoi, Jay?
Il s'agissait de qu'est-ce qu'un Inukshuk?
Ah!
Ouf, non,
un Inukshuk, la gang. Alors,
j'étais pas là.
Cet empilement de pierre qui fait la forme humanoïde, évidemment, qu'on peut remarquer à quelques endroits sur le bord de la route.
Okay.
Je ne sais pas à quel point c'est de l'appropriation culturelle sur le bord de la route, cependant, mais c'est effectivement un Inukshuk. Vous l'aurez appris ou
non. Ben oui. Absolument, parce que je suis moins niaiseux.
Tout à fait. Écoute, ça sert à quelque chose, Géopardy. Le pointage reste inchangé, toujours 25 à 10. Nos deux participants ont perdu aujourd'hui. Madame Blancheville est de retour. Émilie Gagné, les joies du ménage.
Oui, en fin de semaine, j'avais du ménage à faire, comme plusieurs d'entre vous.
Wow.
Et j'arrêtais pas de remettre comme à plus tard, tu sais, quand tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais que ça te tente pas.
Ouais.
Fait que je me trouvais des raisons, j'allais sur Facebook, je m'inventais une fin, je voulais me cuisiner un repas.
Il fait trop beau, il fait pas assez beau, tu sais.
Alors, mais c'est bon de faire le ménage, pas juste pour la maison, pour la santé aussi. C'est prouvé que c'est un déstresseur reconnu.
Ah oui.
Le ménage diminue de 20% l'anxiété. Quand on fait au moins 20 minutes de ménage, on peut devenir moins anxieux. Et si on utilise des produits au citron, c'est encore mieux.
Ah! On trouvait ça assez drôle.
C'est cool, hein? Aussi, faire le ménage améliore notre humeur et surtout les femmes, parce qu'on s'est rendu compte que dans une maison en désordre, à la fin de la journée, on se sent plus déprimé que si on a une maison qui est rangée.
Amy.
Ça a l'air de te parler, ça.
Hey, écoute, c'est trop drôle. Je salue ma blonde qui est à l'écoute en char fort probablement présentement, puis je suis sûr qu'elle rit aux éclats en ce moment parce que pas plus tard qu'hier, OK, dans notre cuisine, on a un îlot. Puis c'est un ramasse cochonnerie.
Ben oui, ça, c'est pour tout le monde, oui, c'est sûr.
Des papiers, écoute, du change. Puis
28 chaudrons qui servent à rien.
Ah, écoute, des petits pots qu'on a lavés, mais qu'on n'a pas serrés dans l'armoire. Écoute, puis là, je suis descendu, hier matin, il faisait froid, je suis descendu avec Camille faire du feu en bas, puis là, maintenant, j'entends bing, bang, bing, bang, bang, bang. Puis là, écoute, je suis comme, OK, Isa est partie sur ses grands chevaux, puis elle fait du ménage, tu sais. Puis là, je remonte, puis Lilo est crystal clear, toute propre, puis là, elle dit, ah, ça fait assez du bien, là. C'est un soulagement. On dirait que je me sens mieux après. Fait que là, t'arrives avec ça un matin, puis je suis comme, ben, c'est confirmé.
Ben oui, c'est confirmé. C'est certain. Aussi, le fait d'avoir une maison propre prouve qu'on a tendance à être plus actif. Si vous entrez chez quelqu'un, c'est toujours bien ramassé, bien propre. Ça veut dire que souvent, c'est une personne qui est active, qui bouge.
Fait que là, quand vous rentrez chez quelqu'un, puis c'est le bordel, là, quand on va être déconfiné, là, vous saurez quoi en tirer comme information.
Voilà. Aussi, le ménage accroît notre productivité. 77% des travailleurs américains ont fait un sondage. Ils reconnaissent qu'ils sont pas capables d'être productifs si leur bureau est en bordel. Faut que ce soit rangé pour meilleur. Oui. Et enfin, le ménage de la chambre à coucher, c'est important pour bien dormir.
Oui.
19% des gens qui font leur lit tous les jours, qui ramassent leurs affaires dans la qui ramassent leurs vêtements, 19% dorment mieux à cause de ça. Et aussi, il y a 75% des gens qui dorment mieux dans des draps propres, draps qui sentent bon.
Ben oui, ça c'est sûr.
Donc, pour le sommeil, il n'y a rien de mieux qu'un bon ménage de la chambre à coucher.
Bon, ben, c'est motivant, ça. Ça a le goût. J'ai le goût que ce soit propre chez nous. Est-ce que j'ai le goût de faire le ménage plus?
Non.
Peut-être pas. Mais j'ai le goût que ce soit propre, par exemple. Ah, ça oui. C'était quoi votre premier char que vous avez conduit, là? Le tout premier? Écrivez-nous ça au 6-12-13. Amy, ton Chevrolet Cavalier turquoise avec des stripes blanches, des petites stripes minces sur le côté avec les ailes rouillées, là.
J'en ai-tu? Vécu des choses avec cette voiture-là.
Je suis sûr que tu regrettes de l'avoir vendu, ce cavalier-là.
Non, pas vraiment, parce qu'écoute, là, j'ai vécu des... J'ai, à un moment donné, j'avais plus de break, plus de frein en descendant l'avenue Rouleau.
Plus de dignité, en général.
C'est ça. J'ai perdu... en tout cas, j'ai changé tout ce que je pouvais changer sur cette voiture-là. Okay. Donc, non, j'étais bien contente de m'en débarrasser.
Mais peut-être qu'il vaudrait de l'or aujourd'hui.
Sait-on jamais! parce que on parle souvent des maisons qui sont plus chères, qui valent plus cher, les matériaux pour construire des maisons qui sont plus dures à trouver,
à
plus chères aussi.
À cause de la pandémie,
c'est ça. Mais on ne parle pas beaucoup des voitures, mais on est dans un problème semblable.
Ah oui?
Par exemple, en ce qui a trait à la rareté des pièces pour la construction de voitures, semble que les constructeurs automobiles ont énormément de difficultés à s'approvisionner. Et non seulement ça peut faire en sorte que les délais pour avoir un véhicule neuf sont plus longs, les prix peuvent être un peu plus élevés.
C'est vrai.
Et c'est aussi le fait que si vous avez une voiture usagée actuellement qui est en bon état, elle pourrait valoir plus cher que à même date l'an dernier.
Ah, ça, c'est particulier parce qu'habituellement, ça baisse en valeur.
Ben, c'est ça. Mais non, là, votre voiture, là, je parle pas des vieux bazous qui tombent en ruine.
Non, mais tu sais, 2010 à 2018, mettons, là.
C'est ça. Qui est quand même en bon état, ben, vous pourriez faire quand même pas mal d'argent en vendant votre voiture. Tout simplement parce que, et là, je donne un exemple, il y a Toyota qui a fermé une de ses usines de production en Ontario pour le RAV4, qui est une des voitures super populaires. Tout simplement parce qu'il y a un fournisseur qui est aux prises avec des cas de COVID puis il est pas capable d'amener les pièces.
Ah,
puis,
c'est donc, fatiguant, ça.
Ça, c'est le genre de choses qui se passent pas mal ces temps-ci dans l'industrie automobile. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est important d'investir aussi dans son auto. Admettons là, que vous avez une voiture usagée qui est en bon état, mais vous avez des petites choses à changer.
Les freins ou...
Exact. De l'entretien. Ben, on nous encourage vraiment à le faire puis dire, ben, écoutez, ça vaut peut-être la peine d'investir dans votre voiture parce que vous allez avoir plus d'argent au final si vous la vendez dans les prochains mois.
Ben,
intéressant.
C'est pas fou, hein, parce que moi, je regarde pour cet automne avoir un véhicule électrique. Alors, je vais changer, c'est sûr. Et ça fait un an que je vérifie justement la valeur de mon de revente de mon Tiguan 2016. Okay? OK? Puis, j'ai remarqué que le prix a pas vraiment baissé dans la dernière année. Puis même que je suis peut-être capable d'aller chercher un 1000 de plus. Alors, je suis convaincu que c'est vrai ce que tu dis. Vous l'avez peut-être remarqué. Puis, les véhicules neufs sont plus rares à acheter. Donc, les gens se portent vers les véhicules d'occasion. Si vous voulez faire une bonne affaire là, en ce moment, ben, c'est peut-être la meilleure occasion pour vendre votre véhicule. Le printemps, en plus, c'est effervescent dans ce domaine-là. J'aurais pu sortir la trame de Monsieur Gratteux ce matin, mais je l'ai pas fait parce que je pense que dans la situation actuelle, invariablement, en plus, comme le salaire minimum a augmenté, tout le monde mérite une augmentation. On travaille tellement fort depuis un an et deux mois. On prouve notre valeur à notre employeur et peut-être que vous serez appelé à négocier votre salaire prochainement. Si c'est l'occasion, prêtez l'oreille, ça vaut le coup. Il y a une étude qui a été publiée dans le très sérieux journal de la psychologie appliquée, une étude qui a été faite par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology.
Okay.
Et ça, on s'entend, c'est pas des deux typiques. Ils ont fait une vaste étude et ils sont intéressés à la relation employé-employeur au niveau de la négociation. Et particulièrement au niveau du salaire. Ils sont arrivés à une conclusion vraiment incroyable qui fait que généralement les deux parties gagnent quand ceci arrive lors d'un entretien de négociation de salaire. Il faut, pis c'est simple, c'est une recette qui a l'air super niaiseuse, il faut à un moment donné qu'il y ait une longue pause, un bon silence entre 3 et 9 secondes quand l'employeur propose quelque chose à l'employé.
Donc, tu parles pas tout de suite.
Non, faut que tu réfléchisses. Puis ça a l'air niaiseux comme ça, mais un silence peut paraître très, très inconfortable.
Ouais.
Dans cette étude-là, on s'est rendu compte que dans le domaine du travail, quand il y a une discussion entre un employé et un employeur, il y a généralement moins de une seconde de pause entre chaque phrase question-réponse.
Mm-hmm.
On veut répondre du tac au tac. On est conditionné comme ça. Il faut avoir l'air professionnel et avoir l'air d'avoir une réponse déjà toute prête puis connaître son affaire. Alors que dans la réalité, dans la négociation du salaire particulièrement, ça peut être bon pour les deux parties de prendre un temps de réflexion.
Ah, c'est bon.
Parce que l'employeur arrive déjà avec une solution. Tu sais, il fait ses budgets, il est au courant, il a une bonne idée, il a étudié votre dossier. Il vous veut dans son équipe pour encore longtemps, probablement. Il a déjà étudié qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière année si vous êtes déjà un employé et il va vous proposer quelque chose. Mais ce qu'il va vous proposer, c'est peut-être pas la meilleure avenue ni pour l'employeur comme l'employé. Peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est des vendredis de congé durant l'été. Et ça paraît peut-être pas sur le talon de paye. Ça paraît peut-être pas dans votre salaire horaire. Ça paraît peut-être pas dans vos avantages sociaux. Mais au moment où votre employeur va vous proposer quelque chose, prenez le temps. Regardez ça, puis prenez un minimum de 3 secondes pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre avenue qui pourrait être plus lucrative pour les deux parties. Et ça, c'est entre 3 et 9 secondes. Passer 9 secondes, ça crée un malaise invariablement.
J'espère.
En bas de 3 secondes, peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi.
OK.
Puis, peut-être que c'est pour l'employé aussi de réfléchir, mais peut-être que c'est pour l'employeur également. Alors, quand vous laissez un blanc, une pause, vous permettez aussi à l'employeur de réfléchir, à se dire, coudonc, c'est-tu vraiment la bonne affaire que j'ai proposée? Alors, ça sème un doute dans sa tête aussi et ça vous permet de réfléchir. Puis généralement, puis l'étude est fascinante, ça amène des solutions qui sont surprenantes.
Ah ben,
juste parce que vous laissez
un moment de silence,
recours à votre réflexion, un moment de silence, puis ça vous permet de réfléchir. Parce qu'on est tellement conditionné à avoir des réponses toutes prêtes que c'est peut-être pas ça qui nous convient au bout de la ligne. Alors, c'est une stratégie bien simple. Puis si ça vous intéresse d'avoir la négociation comme ça. Sur YouTube, il y a un gars qui fait des conférences TED, qui a aussi un channel sur Masterclass qui vous apprend à comment négocier. Ce gars-là s'appelle Chris Voss et moi, ça fait un an que je regarde ce qu'il fait. Puis justement, la pause, le silence, ça fait partie de ses moyens de négociation. Pourquoi Chris Voss est aussi intéressant? C'est parce que lui, sa job, c'était de travailler pour le FBI et de négocier avec les preneurs d'otages.
Bon, c'est vrai, mais...
d'un professionnel.
C'est ça.
C'est ça. Alors, ce qu'il enseigne est super applicable aussi à l'univers du travail. Alors, c'est l'issue. La prochaine fois que vous allez négocier votre salaire, prenez une pause. C'est tout ce que ça prend. 6h53, bon réveil, bon lundi. il y a des experts qui le disent, les changements climatiques font partie des responsables de la pandémie qu'on vit actuellement, puis on a fort à espérer que à l'issue de cette pandémie, quand ça sera bien derrière nous, que les changements climatiques soient vraiment une priorité mondiale pour éviter ce genre d'affaires-là. Parce que ça va avoir des impacts à bien des niveaux. Et là, bon, on l'a vécu, la pandémie. Maintenant, pénurie de bière, ça pourrait arriver plus vite qu'on le pense. Écoute, il y a la brasserie américaine qui s'appelle New Belgium qui a décidé de concevoir une bière seulement qu'avec des ingrédients de piètre qualité qu'on pourrait retrouver dans la nature si la planète continue de se réchauffer. Fait que là, la bière, elle goûte le cul.
C'est pas bon. C'est comme un plan B extrême.
Écoute,
là.
T'sais, quand t'es mal pris, tu pourrais boire ça. Mais eux, okay. Ils assument leur position entièrement, puis ils appellent ça la fat tire, terre torchée. Ça veut dire que la terre est brûlée. On a de la difficulté à faire pousser des affaires. Alors, on prend ce qu'il y a de mieux, puis ça goûte le pneu brûlé, littéralement.
Bon, fait qu'on va peut-être manquer de bouffe à la fin de l'humanité, mais on va avoir de la bière.
On
ça,
va
c'est
avoir
sûr.
De la bière qui okay. va goûter mauvais, c'est certain. Puis eux, en fait, la brasserie américaine New Belgium, ce qu'ils veulent, c'est sensibiliser les amateurs brassicoles que éventuellement, si on a de la misère à cultiver le grain, par exemple, et tous les autres ingrédients qui servent à faire de la bière, ben on va se ramasser avec ça. Alors, faut éviter ça. Évidemment, ils s'attendent pas à avoir un grand succès avec cette bière-là, mais juste le fait d'être sur les tablettes peut être suffisamment intéressant pour justement conscientiser la population à propos de cet enjeu. Parce que oui, l'agriculture peut aussi avoir des répercussions impressionnantes. Puis j'ai l'impression, peut-être que c'est moi, là, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, les agriculteurs, les cultivateurs de grains l'ont difficile à cause qu'il fait chaud, à cause de nombreuses sécheresses. Puis tu sais, je veux dire, on est quand même une région au nord, là. On n'est pas au sud des États-Unis où est-ce que eux, c'est des feux de forêt à n'en plus finir, mais peut-être que ça a des impacts jusqu'ici. Alors, si vous voyez ça arriver sur des tablettes, la fat tire, terre torchée de la microbrasserie New Belgium, ben, achetez-la ou achetez-la pas, faites ce que vous voulez, mais au moins, vous saurez c'est quoi. C'est un mauvais quart d'heure à passer, notre passage en zone rouge foncé. C'est cette zone de mesure d'urgence spéciale. Mais savez-vous quoi? C'est probablement la dernière fois. Et je croise les doigts et je suis peut-être optimiste en disant que c'est la dernière fois de notre vie qu'on va vivre un confinement de ce genre-là.
Parce j'espère.
Que c'est fort possible avec la vaccination qui s'accélère. Puis, c'est la dernière fois. Alors, on serre les coudes à distance, on garde espoir parce que très prochainement, on va pouvoir serrer nos proches dans nos bras sans avoir peur.
Et c'est ce qui nous manque le plus. Puis moi, j'aime ça regarder ce qui se passe ailleurs, que comme par exemple chez les Britanniques. Eux, ils ont comme été frappés par la troisième vague avant nous. Mmh. Et là, ils sont en train de reprendre leur vie en main. Puis quand je regarde ça aller, je me dis, ah ben, c'est encourageant pour nous aussi. Par exemple, du côté du Royaume-Uni, on est dans la troisième étape du déconfinement qui s'en vient dans 2 semaines. Alors là, depuis la mi-mars, on a réussi à envoyer les jeunes à l'école parce qu'eux autres, il n'y avait pas d'école là, du tout. On a rouvert les terrasses de pubs. Ah, on a rouvert aussi les commerces non essentiels parce que ça aussi, ça avait été fermé pendant plusieurs semaines. Et là, tranquillement, pour la dernière étape, en tout cas, je sais pas si c'est la dernière, mais c'est la troisième étape de déconfinement, on parle d'avoir des colleux, des contacts physiques avec nos proches, avec des gens de familles différentes. Alors, le gouvernement, peux-tu croire, pourrait autoriser des colleux entre les gens à partir du 17 mai sans stress, sans problème. Puis ça, ben, c'est encourageant quand même, parce que ça inclut aussi le fait qu'on pourrait peut-être se regrouper à l'intérieur, un petit groupe, peut-être aussi un peu plus à l'extérieur. Donc, ça fait partie de l'étape de déconfinement du Royaume-Uni. Là, et c'est le premier ministre là, Boris Johnson, Quetté, qui en a fait l'annonce au cours de la fin de semaine. Alors, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit, ah, ben, peut-être que c'est le genre de choses aussi qui s'en vient chez nous. Et du côté du Royaume-Uni, la vaccination, ça avance, mais il y a peut-être juste le quart des gens qui ont 2 doses. Il y a au moins le tiers des gens qui n'ont pas encore de vaccin. Donc, tu sais, on n'est pas tant avancé, mais on est optimiste pour ce qui est quand même de la reprise de la vie normale.
On veut savoir par la messagerie texte au 6-12-13 ce que vous avez mangé le plus épicé dans votre vie, ce qui vous a donné le plus de sueur, ce qui vous a fait vivre le plus d'émotions. On a tous une expérience où est-ce que la langue nous est partie pas littéralement, mais figurativement en feu. J'ai le goût de vous conter la fois où est-ce que pour vrai, je pensais que j'allais jamais en revenir. C'était il y a un peu plus d'un an pour la job, je suis allé à Toronto. C'est le dernier voyage que j'ai fait avant la pandémie. À Toronto, il y a quand même de bonnes tables. Tu sais, c'est très multiculturel. Puis moi, quand je pars en voyage, ce que j'aime, c'est manger, tu sais. Fait que j'ai mangé plein d'affaires à Toronto. Puis j'étais tout seul en plus. Fait que tu sais, je pouvais me claquer des bons restos. Puis c'était cool. Fait que je suis allé dans un resto indien.
OK.
Dans une rue bizarre, dans un quartier bizarre. Mais sur Google, tu sais, il y avait des bons reviews. Fait que je suis comme allé, puis j'avoue qu'une attente. Je rentre dans le resto, puis tu sais, quand tu rentres dans le resto, puis tu dis, oh boy, ici, je suis dans une place légitime. Ça sent ce que j'ai rarement senti dans ma vie. J'ai l'impression que je suis chez un vrai Indien qui fait de la bouffe indienne. Ça sentait épicé. Juste en sentant, juste en rentrant, j'ai comme,
tu le savais.
Coudon, le nez me pique.
Oh, OK.
Puis, fait que là, j'attendais, j'étais dans le resto pour que mon plat arrive, tu sais, puis c'était du take-out en plus. Fait que j'attendais, puis j'étais comme, hey, je pense que je vais être obligé de sortir. C'est ben, ça me pique dans le nez. C'était fort, là. Fait que j'étais comme, j'étais content, mais j'étais inquiet. Je prends mon sac, je paye, je suis content. Je reprends l'autobus pour retourner à l'hôtel. Tu sais, c'était à 5 minutes, là. Puis, fait que là, je me dis, au moins, ça va avoir le temps de refroidir un petit peu, parce que, pour vrai, l'inquiétude et l'anxiété montaient en moi. J'arrive dans ma chambre d'hôtel, puis je commence à manger ça. C'était un genre de wrap avec de la viande marinée dedans. Puis okay. Écoute, c'était rouge radioactif, cette affaire-là. Je mange ça et la gueule me brûle.
Ça devait être du tandoori intense.
Et oui, et là, le problème, c'est que je suis dans une chambre d'hôtel. J'ai rien à boire à part un petit gobelet d'eau.
Oh non.
Tu sais, l'eau de l'évier qui goûte le tuyau, là. J'avais juste ça, mais écoute, ça m'a sauvé la vie, une chance. Mais là, il y avait le frigo qui me regardait, là, avec toutes les belles boissons gazeuses que t'en soulèves une puis ça te charge automatique. Il a fallu que je me gère. Alors, ça, c'est mon expérience de bouffe épicée. Toi, qu'est-ce que t'as mangé d'épicé dans ta vie qui t'a surpris?
Au Mexique, quand j'étais allée au Mexique, moi, je trippe sur les nachos et la guacamole, mais intense. Puis il y en avait partout. C'est ça que je trouvais le fun. Si t'assoyais une table, il y avait des nachos puis de la guacamole. Mais il y avait aussi de la guacamole puis une petite comme pâte rouge à côté. Et là, je me suis dit, ah ben, je vais goûter à ça. Mais moi, tu sais, je trempe mon nachos abondamment. J'en mets beaucoup sur mon nachos.
Toi, tu y vas, là, de façon insouciante.
Je vis l'expérience culturelle, tu comprends? Et je me rends compte que c'est carrément du feu que je me suis mis dans la bouche. La langue me brûlait tellement. Ouais. On dirait que chaque respiration me faisait mal. Et là, j'ai appris que c'est un des piments les plus forts qui offre là-bas. Fallait que je prenne peut-être l'équivalent du bout d'une fourchette, là, petite affaire. Mais écoute, on m'avait pas averti. Mais donc, c'est ça. J'ai souffert.
Jusqu'au 7 juillet, il y a un gros concours sur Internet et on veut trancher. Êtes-vous plus Team Cheetos ou Team Doritos? Parce que là, les deux se livrent un combat sans merci à savoir qui font les chips les plus épicés. Parce que Doritos introduit une nouvelle saveur, Extra Flamin' Hot Nacho, avec beaucoup de X dans le extra.
Oh.
Et pendant ce temps-là, ben, Cheetos sont pas mal pris non plus. Ils ressortent la populaire saveur Flamin' Hot Spicy Pepper Puffs. J'adore le nom. Alors, c'est deux chips super épicés. Puis, il y a des prix à gagner pour se rendre jusqu'au 7 juillet. Puis ça, c'est partout en Amérique du Nord où est-ce que Frito-Lay fait ça. Donc, c'est pas juste chez nos voisins du Sud. Alors, on veut savoir, vous êtes dans quelle équipe? Et ça me fait rire parce que pas plus tard que dernièrement, là, dans les 2-3 dernières semaines, ma blonde a dit, Jay, là, c'est assez. Là, faut arrêter de tomber dans les chips. Moi, j'en veux plus. Fait qu'arrête d'en acheter. Je suis comme, OK, cool. Mais... Elle a continué d'en acheter pour moi, mais pour être sûre qu'elle allait pas en manger, elle a pris des saveurs que juste moi j'aime. Puis elle a acheté des Doritos Dynamite.
Oh!
C'est comme les Takis, dans le fond, là, tu sais, des chips de nachos roulés super épicés, là. Moi, j'étais comme tout content. J'étais comme, yes, tu sais, des chips juste pour moi. Fait que je suis descendu en bas dans le sous-sol faire du feu parce qu'il faisait froid avec un sac de chips, tu sais, pour bien commencer la soirée. Et tabarouette! Je te dis que je suais puis c'était pas à cause du poêle à bois. Alors, tout ça pour dire que Doritos, c'est quand même assez expérimenté. C'est pour ça que moi, je déclare que je suis dans l'équipe Doritos.
Ouais, moi aussi, je pense que je serais ça.
Oui, parce que je sais que t'aimes ça quand que ça fait du son quand tu manges des chips. C'est ce que tu
fais. Oh, c'est ça croustillant.
Oui, faut que le monde autour de toi sache que tu manges des chips. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on veut savoir c'est quoi la chose que vous avez mangée qui est le plus épicée dans votre vie. Textez-nous au 612 6-12-13, puis il faut qu'on raconte notre expérience avec notre collègue de travail, Babineau, Pierre-Marc, qui vous attend dès 18h ce soir. On oui. était tous ensemble, jadis, à une certaine époque, à la cage au sport. Il y avait des ailes de poulet. Puis il y avait des sauces, tu sais, puis il y avait la death sauce. Quand tu demandais la death sauce, la sauce de la mort, fallait que tu signes une décharge.
Ouais.
Est-ce que c'était véritable ou juste pour la game, tu sais, pour la perception, pour le plaisir de la chose, fallait que tu signes comme quoi t'allais pas les poursuivre? Lui, grand niaiseux, il signe ça, il en a pas de trouble, puis il dit « Checkez-moi bien la gang, pogne son aile de poulet, swing ça là-dedans, mange l'aile, tu sais, là, un bon pilon, là, d'une seule croquée, mange
ah oui,
tout ça. »
Avec beaucoup de sauce.
Oui, puis tu sais, la désinvolture digne de Pierre-Marc, il mange ça, puis tu sais, il fait « Ah, oh, c'est sucré un peu, c'est drôle », et là, tranquillement, pas
ça
vite,
commence.
Son visage se met à se transformer et changer de couleur et soudainement devenir luisant. Et lui, de demander avec sa petite voix
un
au
petit
serveur,
verre de lait.
« Je pourrais-tu avoir un verre de lait? »
C'était tellement drôle!
Alors, nouveau info, Martin Brassard.
Oui, parlons d'abord de ce bilan qui est à la baisse pour les 24 dernières heures du mois, avec un total de 26 nouveaux cas de COVID au Bas-Saint-Laurent. Rivière-du-Loup, encore une fois, le plus grand nombre de nouvelles infections, c'est-à-dire 11. Rimouski-Neigette en compte 4, la Matanie et la Métis, une chacune, aucune dans la Matapédia. Mais depuis l'annonce de la mise en place des mesures d'urgence, le nombre de nouveaux cas est 4 fois plus élevé à Rivière-du-Loup qu'à Rimouski. Depuis vendredi, c'est-à-dire dans les 3 derniers jours, le 6 confirme 42 nouveaux cas à Rivière-du-Loup, 23 dans le Kamouraska, et 10 à Rimouski.
Ouais.
12 personnes sont hospitalisées à la clinique COVID du centre hospitalier de Rimouski, 3 étant aux soins intensifs. 4 personnes de moins de 60 ans font partie de ces patients. C'est donc un total de 3071 cas de COVID qui ont été rapportés sur le territoire depuis le début de la pandémie. Le rapport Laurent, très attendu sur la protection de la jeunesse, sera dévoilé à 14h cet après-midi à Montréal. La commission d'enquête publique a été mise sur pied, rappelons-le, à la suite du décès de cette fillette de Granby il y a 2 ans, presque jour pour jour. Maître Valérie Assouline, qui est spécialisée en droit de la jeunesse chez SOS Avocats, juge que l'enfant doit absolument être davantage pris en compte. Selon elle, il faut humaniser la DPJ, réduire la bureaucratie, avoir beaucoup plus de ressources sur le terrain, aider davantage les parents et surtout rendre les intervenants plus imputables.
Vous allez dans un hôpital, vous avez une erreur de la part d'un médecin ou de la part d'une infirmière, ben vous pouvez poursuivre l'hôpital. Si un enfant décède alors qu'il devait être protégé par la protection de la jeunesse, s'il y a de l'abus de la part d'un intervenant, ça peut arriver, il faut que le système soit imputable. On ne peut pas continuer à ce que personne soit responsable lorsqu'il y a des erreurs.
La ville d'Amqui demande l'appui de sa population pour venir en aide aux sinistrés de ce terrible incendie de jeudi dernier. Les propriétaires de logements et de résidences sont interpellés afin de trouver des chambres ou encore des appartements temporaires là, pour tenter de reloger les victimes. On écoute à ce sujet le maire d'Amqui, Pierre Damour.
On sait là, que le marché locatif, il y a très peu de loyers disponibles, mais peut-être avec cet appel-là, on a peut-être quelques propriétaires qui trouvaient de l'espace pour accueillir.
Des collectes de dons sont organisées à partir d'aujourd'hui à l'Aréna d'Amqui pour récolter des meubles, des vêtements et articles de tous les jours. En raison, bien évidemment, des consignes sanitaires, la collecte de dons se fait uniquement sur rendez-vous pour éviter tout attroupement. Alors, pour tout logement disponible ou encore faire un don, vous communiquez tout simplement directement à la ville d'Amqui. Le premier ministre François Legault presse les syndicats des secteurs publics d'en arriver à une entente d'ici le mois prochain. Il a tenu un point de presse à ce sujet hier. La dernière offre contient une augmentation de 8% sur une période de 3 ans, une hausse de salaire de 18% pour les professeurs et de 23% pour les préposés aux bénéficiaires. On écoute la réaction du président de la FTQ, Daniel Boyer.
S'il y a une volonté de la part du gouvernement de véritablement régler en quelques semaines, on va être là. Mais c'est bien évident qu'on ne signera pas la dernière proposition qui nous a été faite de la part du gouvernement.
Alors voilà, espérons que les négociations se poursuivent et qu'on en arrive éventuellement à des ententes.
Le chanteur canadien The Weeknd a été entendu parce que on se rappelle qu'il avait créé quand même la commotion lors des derniers Grammy alors qu'il avait été totalement boudé des nommés, des gagnants, puis il avait sorti dans les médias en disant que les Grammy étaient corrompus. Il y avait peut-être pas tort à 100% parce que finalement, du côté de l'organisation des Grammy Awards, on a décidé de faire des gros changements et d'abolir le comité secret qui sélectionnait jusqu'à présent les artistes qui étaient sur la liste des nominations À la place d'avoir un comité secret anonyme de 15 à 30 membres, on a décidé tout simplement pour la prochaine édition des Grammys de faire voter l'ensemble des membres de la Recording Academy.
Ben
ils sont 11 000.
Mais
tu sais, je veux dire, c'est toujours bien mieux de faire un vote que de prendre quelques personnes anonymes sur le côté
ben oui.
puis faire des nominations.
Ben oui, parce que en les personnes anonymes ont peut-être des partis pris puis ben sont oui, juste 11, tu sais, maintenant, là.
Alors, on a changé ça pour l'an prochain. On verra si ça sera payant pour The Weeknd, mais il s'en fait
ouais,
pas trop,
là,
lui.
Tu joues, ça peut être en tout cas, quelque chose de différent. C'est-à-dire, 11 000, il va peut-être avoir un concours de popularité plus que d'autres choses.
Ah, aussi. Ouais.
C'est je veux dire, il n'y a pas de formule gagnante. À mon avis.
Probablement pas, mais en tout cas, The Weeknd lui sentir quand même bien. Il est en tête des nominations pour les prochains Billboard Music Awards avec 16 nominations. Et il est en tête des nominations aussi pour les prochains Juno Awards qui vont être présentés le 6 juin. Donc, puis là, c'est là qu'on voit que, à quel point il a été oublié des Grammys quand on voit qu'il y a des nominations partout ailleurs sur la planète dans d'autres galas. Mais bon, on va probablement se reprendre avec lui l'an prochain. Et oublie-moi. La chanteuse Cœur de Pirate en a surpris plusieurs en fin de semaine parce qu'elle a décidé de lancer un album. Et elle a lancé un album instrumental qui s'appelle Perséide, entièrement interprété au piano. Parce qu'il faut comprendre, c'est que Cœur de Pirate s'est fait opérer aux cordes vocales au cours des dernières semaines.
Ouais.
Et elle n'est toujours pas en moyen de chanter là, comme avant. Elle est en train de se réhabiliter, si tu veux, à chanter. Mais elle était très, très inspirée au cours de l'hiver dernier, au début du printemps, puis elle s'est dit « Je vais profiter de quand même de mon silence pour continuer de créer. » Et elle s'est assise au piano, elle a composé 10 chansons et c'est un album qui est disponible depuis vendredi dernier pour les intéressés.
Je lisais en entrevue qu'elle avait une relation particulière avec son piano parce que pour elle, ça a toujours été une corvée et le piano était toujours un outil pour écrire des chansons et des paroles, tu sais.
Okay.
C'était plus en support qu'elle jouait du piano. Et pourtant, on s'entend, là, c'est une excellente pianiste.
Ben oui!
Contrainte à, justement, ses problèmes aux cordes vocales, fallait qu'elle garde le silence pendant très, très longtemps. Mm-hmm. Ben, elle s'est dit, ben, je vais pratiquer mon piano, tu sais. Ça
ben
reste son travail.
Ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Elle s'est mise pas en danger, mais elle a pris un risque. Elle est sortie de sa zone de confort pour nous offrir ça.
Puis, on s'entend, là, à l'issue de cette expérience-là, Cœur de Pirate, même si elle n'a pas pu chanter, elle en ressort grandement plus outillée et encore meilleure qu'elle était.
D'ailleurs,
c'est super bon ce qu'elle fait. Là.
D'ailleurs, Cœur de Pirate, normalement, va faire son tour à Rimouski le 23 septembre 2021. Là. Okay. C'est prévu son spectacle, alors peut-être qu'elle aura quelques chansons au piano à nous faire aussi lors de ce spectacle. C'est présenté à compter de 20h. Le festival Le Tremplin de Dégely va être présenté malgré la COVID-19 cette année et ça va commencer ce mois-ci. Alors, l'événement va se dérouler du 19 au 22 mai dans une formule virtuelle qui va être adaptée aux règles sanitaires en vigueur. On va pouvoir voir différents spectacles dans le confort de notre salon. On a une trentaine d'artistes qui vont compétitionner dans plusieurs catégories. Ça fait 20 ans qu'on présente le tremplin de Dégely, puis déjà, on a quand même fait de belles découvertes au fil des ans. Il y a Sam Breton, André Sauvé, Claude Pelgag, Philippe La Prise, Boucard Diouf qui se sont fait découvrir grâce à ce festival qui est très, très important. Et en plus, cette année, c'est Luce Dufault qui agit en tant que porte-parole de l'événement. Alors, on va commencer le 19 mai avec les premières finales pour ce qui est des différentes catégories d'artistes. Et pour ce qui est des finales, là, c'est gratuit. Hein? C'est présenté en web diffusion. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire sur le site Internet du Tremplin. Et on vous offre le grand spectacle gala qui va être le samedi soir avec Luce Dufault. Et là, ben, ce sera un 20$ bien investi pour assister à ce spectacle-là où les billets sont également en vente sur le festivaltremplin.com.
Pour le volet humour, il y a l'humoriste de la région, Marc-Antoine Lévesque, qui figure parmi les gens qui vont participer au tremplin. Alors, tu sais, c'est une belle façon de l'encourager puis de découvrir le talent de chez nous également. J'ai bien hâte de voir, puis on est tous derrière lui et à ses côtés et devant puis partout autour, parce qu'il est pas très grand.
Hier, c'est William qui a finalement remporté Star Academy 2021. Selon Lara Fabian, les votes étaient très, très serrés entre le finaliste masculin William et la finaliste féminine Lunou. Et finalement, ben, c'est William qui l'a remporté. Alors, il part avec 125 000 $ en argent, un contrat de disque. Et les autres candidats ne sont pas en reste, hein, parce qu'ils ont obtenu chacun une bourse de 10 000 $ en plus d'avoir de nombreux cadeaux alléchants et des invitations pour participer à d'autres spectacles avec d'autres artistes. Parlant de spectacles, justement, hier, dans la foulée de cette grande finale de Star Academy, on a annoncé que les deux finalistes allaient être de passage à Rimouski, à la salle de Jardin TELUS. La date, c'est le vendredi 18 février 2022 à 20h pour assister à ce spectacle, parce que gageons que les finalistes vont être très, très occupés d'ici là. Ils ont un gros spectacle à monter. Et si vous voulez aller les voir, les billets sont en vente maintenant, là, actuellement, pour voir les finalistes de Star Academy, et exclusivement en ligne aussi, okay, au spectar.com, parce que bon, on peut pas se rendre à la billetterie vraiment. Là, c'est fermé. Donc, c'est votre occasion ou jamais. Si vous voulez avoir les meilleures places, ça se passe directement sur le site Internet de Spectar. Hier, il y en a plusieurs qui ont retenu leur souffle devant le passage de Marie-Pierre Morin. Tout le monde en parle. Marie-Pierre Morin qui faisait sa première apparition télévisuelle en près de 10 mois, ouais, hier. C'était une apparition 24 heures après avoir été visée par des nouvelles allégations d'inconduite sexuelle et de racisme, entre autres dans un article qui est paru dans la presse. Alors, Marie-Pierre Morin est apparue, du moins, émotive par moment. Il semblait vraiment peser ses mots. On a parlé de où est-ce qu'elle en était. On a parlé de ses différents problèmes de consommation, des personnes auxquelles elle a manqué de respect, de son retour sur les plateaux de tournage.
Des démarches aussi qu'elle a entrepris pour essayer de régler ses affaires.
C'est ça. Et on a eu quelques explications du processus de Marie-Pierre Morin de réhabilitation. Par exemple, bon, elle a mentionné qu'elle était une alcoolique dépendante et qu'elle était complètement envahie du sentiment d'être aimée à tout prix de façon maladive. Et ce qu'elle mentionne, c'est quand tu combines ça à l'ego démesuré qui vient quand t'es en consommation, ben, elle considérait qu'elle pouvait tout faire et elle trouvait ça très malheureux. Alors, elle a mentionné, rendu là, la seule chose que je peux faire, c'est de reconnaître que j'ai, par mes comportements, mes paroles, blessé des gens. Et bon, elle a mentionné qu'elle avait l'intention de s'excuser personnellement envers tous ceux et celles qu'elle a blessés dans le passé. Alors, je ne sais pas trop quoi penser de cette situation-là.
Moi aussi, je suis partagé, parce qu'il ne faut pas pardonner ça systématiquement en disant « c'est excusé, c'est correct ». Non, non, il y a des gestes, il y a plus profond. Au moins, elle prend des chemins pour régler ses problèmes.
Voilà.
Mm-hmm. Puis en même temps, d'un autre côté, je suis comme, ben, tu peux pas empêcher quelqu'un de travailler. Puis tu sais, je le sais qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait professionnellement. Mm-hmm. Puis elle veut gagner sa vie. Puis parfois, quand t'as des problèmes dans ta vie personnelle, ton travail, ça peut être un refuge, ou est-ce que c'est une bouée de sauvetage, puis ça te permet de reprendre le contrôle sur tout le reste de ta vie. Fait que tu sais, moi aussi, je suis partagé.
Ouais, ben c'est parce que ça met, tu sais, l'alcool a le dos large, tu sais, c'est comme ça dit, ah ben je disais des choses comme ça parce que j'étais en boisson. Je veux dire, oui, là, mais il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'alcool et qui sont pas nécessairement à ce point désagréables avec les autres.
Mais en même temps, ça n'a pas le même effet sur personne.
C'est ça. Il y a sûrement d'autres choses à déterrer, oui, d'autres problèmes plus profonds, et on n'est pas entré là-dedans hier à Tout le monde en parle. Puis c'est plate, mais on aurait peut-être dû.
Avec comme, des experts, peut-être.
Voilà, je sais pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner pour elle. D'ailleurs, elle était en nomination Gala Artiste. Hier, elle a choisi de retirer sa nomination parce que, bon, il y avait beaucoup de controverses, évidemment, entourant cette situation-là.
Martin, à surveiller dans l'actualité?
Oui, 14h, dépôt du rapport Laurent sur la situation de la DPJ, la situation des jeunes également. Ouais. Alors, ça risque d'être extrêmement important. À savoir si le rapport va évidemment servir ou s'il va se retrouver sur une tablette, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Et séance régulière du conseil municipal de la ville de Rimouski, ce soir à l'Hôtel de Ville. En principe, on s'entend évidemment que c'est en forme virtuelle depuis un bon bout de temps déjà.
Demain, à gagner de la bonne bouffe, Amy?
Oui, 50 $ pour aller manger chez Gréco. C'est ce qu'on vous donne à tous les matins cette semaine chez Gréco. En fait, tu vas chercher ta bouffe puis tu la ramènes chez vous.
Oui, c'est bon. Des bonnes brochettes.
C'est ça.
Un bon petit surf and turf. paraît que leur fish and chip est bon. Tout ça pour dire que également, parlant de fish and chip, Pat Lavoie va venir nous voir demain.
Et c'est ça. Ah oui.
Il mange pas de poisson, Pat.
Non, je le sais.
Mais il mange de la panure, mais
il laisse la morue à quelqu'un d'autre, mais la panure, ça y va par là. Il va venir tester nos connaissances sur la musique de Rouge. Il va venir faire son ratoureux avec ses oui. litigieux. Passez une excellente journée. À demain.
On est tous debout. Rouge.